en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Mgr Claude Dagens, qui a été élu à l'Académie française comme successeur de l'historien René Raymond et a été reçu sous la coupole le 14 mai 2009. Mgr Dagens est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de l'université, docteur ès lettres, mais aussi en théologie. Sa thèse abordait le pontificat de Saint Grégoire le Grand. Il fut, entre autres, doyen de la faculté de théologie de Toulouse, avant de devenir évêque auxiliaire de Poitiers en 1987, puis évêque d'Angoulême depuis 1993. Mgr Dagens est l'une des grandes figures intellectuelles de l'Église de France et il a été le maître d'œuvre de deux documents importants dans l'histoire récente de cette Église. D'abord, la lettre aux catholiques de France en 1996 sur le thème « Proposer la foi dans la société actuelle », puis tout récemment, en novembre 2009, le rapport présenté à l'Assemblée des évêques sur le thème « Entre épreuves et renouveau, la passion de l'Évangile, indifférence religieuse, visibilité de l'Église et évangélisation ». Mon père, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le principe de notre série « L'Essentiel ». Sept questions récurrentes posées à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et la société, leurs échecs et leurs motivations. Alors tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire, quel a été, mon père, jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Oh, l'appel de Dieu. Mais ce sont ces réalités que l'on comprend plus tard. Je pense aux disciples d'Emmaüs. Ils comprennent qui est Jésus alors que Jésus est devenu invisible. Et je comprends plus tard, c'est-à-dire à longueur d'avancée dans la vie, d'abord ce que j'ai reçu de mes parents. Ils ne m'ont jamais fait de discours sur Dieu. Mais je les ai vus vivre, je les voyais vivre dans la droiture et dans la justice. Et puis, la surprise de Dieu. Je souhaitais, depuis l'enfance, devenir professeur d'histoire. Parce que j'avais eu de très bons professeurs d'histoire, je voulais les imiter. Et si j'ai fait des études, d'abord au lycée Montaigne à Bordeaux, puis à l'école normale supérieure, où j'ai hésité d'ailleurs entre les lettres et l'histoire, et finalement m'orienter vers les lettres, mais j'ai continué à faire de l'histoire, je souhaitais toujours enseigner l'histoire dans un lycée ou à l'université, puisqu'ensuite j'ai fait l'école française de Rome, et puis Dieu est passé par là.
Dans une église en plus, non ?
N'exagérons pas.
Pendant que on m'a dit que c'était à Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
Oui, c'est vrai. Mais précisons ou élargissons. Pendant que j'étais étudiant à l'école normale supérieure, j'ai appris à prier d'une manière nouvelle. Il y avait un prêtre, notre aumônier, qui d'abord ouvrait l'évangile. Et quand il ouvrait l'évangile, on avait l'impression que la personne même de Jésus surgissait, apparaissait. Et puis, j'ai appris à prier d'une manière personnelle. J'avais toujours prié, mais j'adressais des demandes à Dieu. J'ai découvert le Christ et j'ai prié d'une autre manière. Et il est vrai que j'allais habituellement, quelquefois tous les jours, dans les églises du quartier latin, de Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Saint-Séverin, en passant par Saint-Nicolas-du-Chardonnay, et je prenais le temps de regarder vers Dieu et de poser sans doute la question « Qu'attends-tu de moi ?» Et c'est à travers la prière qu'est venu cet appel « Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas prêtre ?» Et je dois ajouter qu'un prêtre que je connaissais, qui avait été mon aumônier de lycée à Bordeaux, et qui était devenu évêque d'ailleurs, m'a posé à ce moment-là la même question. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas prêtre? Et je ne me lasse pas d'être étonné par la manière dont Dieu s'y prend pour intervenir dans nos vies. Et puis à un certain moment, alors que j'ai mis longtemps pour de multiples raisons à choisir vraiment, à un certain moment, j'ai pris la décision de m'engager. Et depuis ce moment-là, j'étais à Rome à ce moment-là, je vois encore, j'ai posté une lettre par rapport à l'éducation nationale, et à partir de ce moment-là, j'ai eu la certitude, la conviction d'être conduit. Et je continue à apprendre à me laisser conduire par celui qui dit lui-même qu'il est le chemin.
Mais est-ce que dans des moments comme cela, on se sent différent des autres ?
Non, comment dire, j'ai beaucoup reçu de mes camarades du lycée de Bordeaux, de l'école normale supérieure, différent des autres. Ce n'est pas d'abord l'impression primordiale, c'est plus qu'une impression, c'est la conviction. Ta vie se réalisera vraiment si tu acceptes de répondre à cet appel et de te laisser conduire. Autrement dit, ce n'est pas le sentiment de la différence, c'est le sentiment d'une espèce de, comment dire, d'obéissance radicale dans laquelle on apprend la confiance plus forte que tout. Dieu est là et il est fidèle.
Vous êtes fils unique. C'est une nouvelle que votre mère a reçue assez difficilement, donc, l'annonce de votre intention d'être prêtre.
C'est une des principales épreuves que j'ai connues et que je n'oublie pas. Effectivement, mes parents étaient croyants, mais ils s'étaient habitués à la perspective pour leur fils d'une carrière universitaire. Et moi-même,
c'était bien parti.
envisageais le mariage, devenir père de famille. Et puis, il y a cet appel. Et pour ma mère, ce fut une épreuve terrible. Et pendant des années, c'est pour cela que j'ai attendu, je me disais, je parviendrai à la convaincre. Mais je n'ai jamais réussi à la convaincre. Aucune explication n'était efficace. Il n'y a eu qu'un événement, c'est le jour de mon ordination. À Bordeaux, dans l'église même où mes parents s'étaient mariés, où j'avais été baptisé, où ont eu lieu ensuite les obsèques de mes grands-parents et de mes parents. Le jour de mon ordination, c'était la fête de Saint-François d'Assise. Je l'avais choisi ainsi, le 4 octobre 1970. Et je vois encore ma mère, mon père avait accepté, il en était même heureux profondément, même s'il n'osait pas le dire. Et mes parents, qui jusque-là priaient ensemble, ont arrêté de prier ensemble. Au moment où ma vocation s'est dessinée comme le chemin ouvert. Et je vois encore ma mère, maman, le jour de mon ordination, au début figée, crispée, réticente, inquiète. Et puis, après, et dès le lendemain, elle n'était plus la même. Et elle ne m'a plus jamais reparlé de son opposition. Comme si l'événement lui-même, le signe de l'ordination, avait convaincu que ce chemin était ouvert. Je suis ensuite parti à Paris quelques années, puis je suis revenu à Bordeaux, et ma mère a suivi mon ministère de jeune prêtre à Bordeaux avec beaucoup de confiance et de paix. Elle était très proche.
Alors évoquons un autre moment, un autre niveau bien sûr, mais moment essentiel quand même. Peu de gens savent sans doute qu'avant d'être élu en 2009 à l'Académie française, celle-ci vous avait honoré d'un prix à l'occasion donc du rapport que vous aviez rédigé et qui avait été adopté et signé collectivement par l'Assemblée plénière des évêques de France. Donc, cette lettre aux catholiques de France sur la foi, la proposition de la foi aujourd'hui. Alors, c'est une lettre qui a marqué intellectuellement, qui a été traduite d'ailleurs, je crois, en 6 langues. Et ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et ça a fait réfléchir énormément. Comment expliquez-vous, donc 14 ans après, que ce fut un tel événement? Quelle était l'idée force qui a ainsi bousculé les gens?
Je n'ai rien calculé. On m'avait demandé, la présidence de la Conférence épiscopale française, Mgr Duval, m'avait demandé de présenter un rapport, et les termes même ne sont pas de moi, proposer la foi dans la société actuelle. Quelques années plus tard, j'ai été particulièrement heureux de découvrir que ce terme, cette expression, se trouvait dans le discours par lequel le pape Jean XXIII, le bienheureux Jean XXIII, j'aime beaucoup Jean XXIII, ancien nonce à Paris, devenu pape Jean XXIII, avait introduit le Concile Vatican II en disant qu'il ne s'agissait plus seulement de défendre la foi, mais de la proposer. Et de la proposer en tenant compte à la fois de son contenu et des formes nouvelles dans lesquelles elle pouvait s'exprimer. J'ai réuni un groupe de travail. Il y avait notamment Mgr Doré, qui est ensuite devenu archevêque de Strasbourg, Hippolyte Simon, qui est archevêque de Clermont-Ferrand, et d'autres amis, et le père Gaget, doyen de la faculté de théologie catholique de Paris à ce moment-là. Au fond, le chemin s'est dessiné devant nous. Nous n'avons pas calculé. Et nous sommes très vite tombés d'accord sur une conviction commune qui a toujours aujourd'hui sa pleine valeur. Nous avons à être chrétiens et à devenir chrétiens dans une société qui n'est plus chrétienne, où les références publiques à la foi catholique ont disparu. Mais nous considérons, je considère, que cette société qui n'est plus chrétienne ne rejette pas le christianisme, elle l'ignore. Et comment être chrétien dans cette société? C'est aussi l'intuition de cette lettre et du rapport que vous avez évoqué, qui vient d'être publié, dont nous reparlerons tout à l'heure. L'intention, c'est, nous avons à aborder des temps nouveaux pour l'évangélisation. Nous ne sommes pas au lendemain de la Révolution française. Nous ne sommes pas non plus au lendemain de la séparation de l'Église et de l'État. Nous sommes ni en 1800, ni en 1905. Autrement dit, il faut que l'Église du Christ apprenne davantage à se situer, non pas de l'extérieur dans une attitude défensive ou agressive, mais de l'intérieur d'elle-même et des convictions qu'elle porte en elle, c'est-à-dire de la force qui est dans l'Évangile et dans la personne du Christ. Une position non défensive qui est en même temps une position de proposition précisément positive. Et cette lettre aux catholiques de France, il me semble, a dessiné des chemins que nous continuons à ouvrir dans une société qui n'est plus chrétienne, nous encourager à devenir chrétiens à frais nouveaux de l'intérieur de ce qui nous est donné par Dieu.
Alors, il y avait une phrase capitale dans cette lettre, si vous me permettez, je vais la relire. Nous refusons toute nostalgie pour des époques passées où le principe d'autorité semblait s'imposer de façon indiscutable. Nous ne rêvons pas d'un impossible retour à ce que l'on appelait la chrétienté. Donc, pas de nostalgie, de l'action. Retroussons nos manches, quoi, c'est ça.
Mais il faut ajouter, et je lis aussi pour aujourd'hui, et je le disais lors d'une intervention que je faisais l'autre soir dans une paroisse de la périphérie d'Angoulême, nous devons résister à deux tentations. Et elles sont quelquefois fortes, précisément la nostalgie du passé. Continuons à rêver du temps où l'étiquette catholique pouvait apparaître publiquement. Et puis, en même temps que la nostalgie du passé, la tentation du repliement. Restons entre nous, colmatons les brèches, gérons la pénurie. Or, la lettre aux catholiques de France et le rapport récent nous disent non, notre référence, c'est la parole même de Jésus. Il ne dit pas à ses disciples « Restez entre nous, allez, restez entre vous, allez, allez ». Et puis, je donne souvent le sacrement de confirmation à des garçons et à des filles qui ont autour de 14-17 ans pour la majorité, également à des adultes. Et à ce moment-là, notre référence, c'est l'événement de Pentecôte. Quand l'Esprit-Saint est donné, que se passe-t-il pour les apôtres? Ils sortent d'eux-mêmes, ils prennent la parole, ils disent ce qu'ils ont à cœur, ce qui leur a été donné, la révélation, Jésus est vivant, ressuscité. Et j'entends encore ce jeune de la jeunesse ouvrière chrétienne de mon diocèse, revenant l'an dernier du rassemblement qui avait eu lieu à la Courneuve, et disant « J'ai compris, Jésus est ressuscité, ça veut dire il est vivant au milieu de nous. » Et il ajoutait « Et moi, je veux être baptisé. » Et je lui ai demandé aussitôt, je l'ai revu encore la semaine dernière pour l'appel décisif des catéchumènes, car il se prépare au baptême. Je veux être baptisé. Je lui ai dit, pourquoi veux-tu être baptisé? Il m'a répondu aussitôt, pour sortir de la violence. Ça en dit long sur la situation familiale. Autrement dit, vivre le baptême pour nous tous, ou vivre l'ordination pour nous qui portons le signe de l'ordination, prêtres, évêques et diacres, comme le signe positif du don de Dieu qui passe par nos personnes dans notre société telle qu'elle est. Non seulement elle n'est plus chrétienne, mais elle est incertaine et à la fois fragile et dure.
Alors ceci nous amène à la deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur ce que vous venez de faire ou ce que vous êtes en train de faire actuellement, mon père?
On rappelle le titre, hein, « Entre épreuve et renouveau, la passion de l'Évangile, voilà. L'indifférence religieuse, visibilité de l'Église, évangélisation », un rapport qui a été présenté à l'Assemblée des évêques en novembre 2009.
Il faut préciser le point de départ. Les termes de la demande étaient différents. Les termes de la demande demeurent les suivants, « indifférence religieuse et visibilité de l'Église ». Et ces termes étaient eux-mêmes chargés de signification. Il semble que l'indifférence religieuse grandit, il semble que la visibilité de l'Église diminue, alors que faire? Et il y a des tentations d'affirmation durcie de la foi catholique qui existent dans cette situation-là. Et nous avons compris que ces termes devaient être travaillés. Nous sommes réellement dans une société d'indifférence.
Il y en a plusieurs formes.
Mais dans cette société d'indifférence, à des degrés extrêmement divers, il y a aussi des attentes spirituelles. Chez des enfants, chez des jeunes, chez des adultes, je suis impressionné du fait que beaucoup d'enfants demandent aujourd'hui d'eux-mêmes à être catéchisés.
Alors que leur famille elle-même
alors
n'est
que
pas...
leurs parents n'ont pas de racines ni de mémoire chrétienne. Et que quand ces enfants, me racontait le cas de l'un d'entre eux l'autre jour, qui est rentré chez lui avec une catéchiste pour dire à son père « J'ai quelque chose de très important à te dire. » Et quoi donc? Et l'enfant, une dizaine d'années, a dit à son père « Je veux être baptisé ». Pour le père, c'était un choc. Il a été au bord de la déstabilisation, même de la colère. Autrement dit, à l'intérieur de l'indifférence, il y a des attentes spirituelles. Et pour ce qui est du terme de visibilité, la visibilité de l'Église, ce n'est pas la visibilité d'une vitrine ou la visibilité d'un spectacle. C'est la visibilité dans la source et dans le cœur de Dieu. Avec, pour dire le mot qui fait partie de la tradition chrétienne, une visibilité sacramentelle. C'est-à-dire que l'Église du Christ existe dans le monde et dans notre société pour être le signe, comme dit le Concile, le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Autrement dit, joindre ce qui est le plus intérieur, certains diront le plus spirituel, et ce qui est le plus social, ce qui s'inscrit à l'intérieur de la société. Et pratiquer ce va-et-vient du social au spirituel, du spirituel au social. Je pense en particulier aux enfants de la catéchèse. Ils sont nombreux, ceux dont les situations familiales sont, le mot complexe est faible, disloqués, perturbés, profondément perturbés. Et ces enfants vont être initiés au mystère de Dieu et en même temps, ils vont être reconnus pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on va les encourager à la confiance, plus forte que les conditions souvent très difficiles de leur vie familiale.
Mais ce que vous dites dans ce dernier rapport est quelque chose quand même tout à fait étonnant. Vous nous dites la manière dont l'Église posait la question essentielle de la visibilité en 70, dans les années 70, est dépassée. La question n'est pas de choisir entre le levain caché dans la pâte et la lumière dressée sur le monde. Le problème est ailleurs aujourd'hui.
Nous avons fait fonctionner, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, des schémas dangereux où on mettait d'un côté ce qui est intérieur, on appelait ça le culte, la vie spirituelle, les sacrements, et puis de l'autre ce qui était extérieur, la mission dans le monde. Et j'ai connu des situations quand j'étais jeune prêtre dans mon diocèse d'origine, et ça se vérifiait dans beaucoup de diocèses, où l'on opposait les gens qui étaient du côté de la vie spirituelle et de la vie liturgique et sacramentelle, et puis les autres qui étaient engagés dans le monde.
Et parfois on donnait un prolongement politique à la chose.
Absolument, avec des engagements politiques et sociaux. Nous avons fait fonctionner cette opposition. Nous n'en sommes plus là. Et je suis témoin que beaucoup de membres du peuple de Dieu sont capables de passer de la prière à la rencontre des blessés de la vie. Ou inversement, si je peux dire, ou réciproquement.
Entre nous, c'est mettre l'évangile en pratique, ça, non ?
Bien entendu, de la rencontre avec des blessés de la vie à la pratique de la prière et même de l'adoration eucharistique. Il se passe du nouveau dans notre Église. Une personne qui revient de l'étranger, qui a vécu pendant un certain temps en Italie, me disait l'autre jour, je suis frappé qu'il y a une vitalité réelle, mais souvent cachée, à l'intérieur de l'Église catholique qui est en France. Un de mes grands amis, qui est un bon observateur, qui aime l'Église, me disait, il y a un ou deux ans, et je le cite dans ce rapport, je parcours les diocèses et j'ai l'impression que l'Église de France est comme un immense réservoir d'énergie inemployée. Et le travail d'un évêque avec les prêtres est précisément de permettre à ces énergies de se déployer. J'aime ce terme de déploiement pastoral. Il fait partie du programme pastoral de mon diocèse. Déploiement pastoral, ça veut dire que, précisément, c'est le contraire du repliement. Et puis le déploiement, il passe par des personnes, par des hommes, par des femmes, et aussi des enfants et des jeunes qui acceptent, même s'ils n'emploient pas ces termes-là, de devenir des signes visibles, réels, de la bonté de Dieu. Nous avons des mots à revaloriser. Bonté de Dieu, miséricorde du Christ, présence, alliance, fidélité, confiance. Voilà le mystère de l'Église. Et ce mystère, il est appelé à s'inscrire à l'intérieur d'une société qui, quelquefois, elle-même prétend ignorer le mystère.
Alors, il y a une formule que vous prenez un peu avec des pincettes, c'est l'identité catholique. Vous faites très attention, hein.
Et le deuxième chapitre de ce rapport est en effet intitulé « Vivre l'identité catholique dans la société actuelle ». Et j'ai choisi volontairement ce terme lourd, d'identité catholique. Je l'ai choisi parce que je crois qu'au lieu de le laisser manipuler de l'extérieur, nous avons besoin nous-mêmes de l'interpréter et de le pratiquer de l'intérieur. Et c'est tout ces développements, identité catholique, c'est-à-dire apprendre à se relier vraiment à la tradition catholique, qui n'est pas la répétition de textes, mais qui est le fait que Dieu se livre à nous dans l'humanité du Christ, avec la force de l'Esprit, la tradition catholique.
Pour vous, c'est plus une foi qu'une culture, la tradition, en fait.
Elle passe par une culture, mais en même temps, elle fait partie d'un mouvement. C'est le mouvement de Dieu qui se livre. Et je ne peux pas oublier qu'en latin, tradition vient du terme latin tradere. Et tradere peut se traduire à la fois par transmettre, avec du vocabulaire comme à l'Académie française, transmettre et livrer. Or, l'acte principal de la révélation chrétienne, c'est l'acte par lequel Dieu se livre à nous.
C'est-à-dire la croix.
Dans la personne de Jésus, oui. C'est-à-dire dans le Fils, dans l'humanité de Jésus, qui va passer de ce monde à son Père en aimant les siens jusqu'au bout, en commençant par leur laver les pieds, et puis en rompant le pain au milieu d'eux, et puis en allant jusqu'à ce signe de la croix, qui n'est pas seulement un signe de souffrance et de mort et d'abjection, mais qui est le signe, le cœur ouvert, les bras ouverts. J'aime la fameuse croix de Saint François, je la contemple souvent. Je serai demain soir avec un rassemblement des jeunes de Thésée dans mon diocèse, et nous ferons l'adoration, la vénération de la croix, comme on le fait à Thésée, le vendredi soir. C'est-à-dire qu'on vient s'incliner sur la croix et on transmet à Jésus tout ce que nous pouvons porter en nous. Il est venu pour tout prendre sur lui de notre condition humaine. Le meilleur, le pire, le médiocre. Et pour tout, renouveler à l'intérieur de sa passion et de sa Pâque.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, élargissons les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde et de notre société. Mon père, qu'est-ce qui, sur ce plan, vous paraît essentiel à dire aujourd'hui ? Évolution du monde et de notre société.
Que nous sommes, et nous ne le savons pas assez, nous sommes notre monde, notre humanité, et l'Église à l'intérieur de l'humanité est dans un état permanent de, comment dire, d'engendrement, de renaissance. Je pense à l'apôtre Paul, sa lettre aux chrétiens de Rome, et c'est une communauté divisée. Et il leur parle de ce monde dans lequel ils vivent, ce monde païen, avec en même temps beaucoup de chrétiens qui sont d'origine juive. Les souffrances du temps présent sont sans comparaison avec la gloire qui doit se révéler un jour. La création en attente gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et nous-mêmes, nous gémissons dans l'attente de la rédemption de notre corps. Et il dit à ce moment-là, c'est cela l'espérance. Espérer, c'est attendre ce que l'on ne voit pas. Et donc, je crois que nous avons besoin d'apprendre à discerner, c'est un grand mot de la tradition chrétienne, c'est-à-dire à regarder au-delà des apparences.
C'est pour cela que vous, très curieusement, le mot « crise » est un mot que vous envisagez de manière presque positive.
Eh bien, je crois qu'effectivement, la situation de crise nous oblige à voir au-delà des apparences et à aller à l'essentiel. Et je suis très frappé, ici même, j'étais encore tout à l'heure avec des membres de l'Académie française, je suis très impressionné par la capacité de discernement de ces hommes et de ces femmes qui, du côté de la littérature ou du théâtre ou de la poésie ou de l'histoire ou des engagements politiques, sont profondément capables de regarder au-delà des apparences, c'est-à-dire de pratiquer le discernement. Et nous, comme chrétiens, comme croyants au Dieu de Jésus-Christ, nous avons à pratiquer ce discernement pour que les signes de la présence de Dieu et de sa fidélité apparaissent au milieu même de ce qui nous semble marqué par des brisures insurmontables, par les cassures de notre société qui sont si réelles, ou par des pauvretés muettes qui sont multiples, ou des situations de solitude qui ne crient pas, mais qui existent très profondément. On ne sait pas assez quel point, et je le dis dans mon diocèse, avec aussi bien pour des zones rurales que pour des zones de la périphérie, il y a des atteintes d'amitié, de confiance, de bonté dans des situations de brisure considérables.
Oui, mais vous nous dites aussi dans ce rapport que nous vivons une révolution très importante dans notre perception du temps et de l'avenir et que nous n'en prenons pas assez conscience.
Oh, c'est évident, c'est une banalité. Nous avons vécu pendant des siècles, depuis le XVIIIe siècle, avec la prédominance de la catégorie du progrès. du progrès, c'est-à-dire « demain sera mieux qu'aujourd'hui ». Or, nous savons bien que beaucoup de gens aujourd'hui vivent sous le régime de l'incertitude. Je suis frappé en particulier des jeunes que je rencontre, ils ont une idée de ce qu'ils voudraient faire, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir le réaliser. Demain est difficile. Autrement dit, la survalorisation de l'instantané, de l'immédiat, pas seulement du présent, et puis l'avenir, on ne sait pas. Or, le christianisme, la révélation chrétienne, doit être proposée précisément davantage comme un mouvement dans lequel nous sommes pris avec la livraison de Dieu qui passe par nous pour se donner au monde.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous changions de regard sur le passé et dans notre manière de faire entrer le passé dans nos vies ?
Je ferai un peu d'histoire, en n'oubliant pas que j'ai été appelé à succéder à René Raymond à l'Académie française. René Raymond était un éminent spécialiste du 19e et du 20e siècle. Alors nous sommes là au lendemain de ces ruptures de tradition formidables qu'ont été la Révolution française, 1789, à la fin du 18e, et également, d'une autre manière, la séparation entre l'Église et l'État au début du 20e siècle. Et puis, il y a une trentaine d'années, autour des années 65-75, que de ruptures de tradition. Nous venons après des ruptures de tradition. Et je fais de l'histoire, je souhaiterais que nous, catholiques du 21e siècle, en France, et en Europe, et dans le monde, notre référence dominante soit davantage l'époque des origines chrétiennes. Pourquoi ? Parce que les
c'est
origines
le spécialiste de la patristique qui parle.
Voilà, bien entendu, oui. J'ai enseigné l'histoire des origines chrétiennes, mais j'y trouve toujours mes références. Ça veut dire que, comment dire, c'est le mélange religieux. Des religions venues, à la fois la religion romaine, mais des religions venues des hauts plateaux de la Turquie actuelle, de l'Asie mineure, et puis le judaïsme également. Donc un mélange religieux. Et en même temps, la nouveauté chrétienne, c'est l'affirmation de la personne humaine. Alors que les sociétés antiques, mais d'une certaine manière on pourrait le dire, de nos sociétés modernes, le principe collectif devrait gouverner tout, la nouveauté chrétienne, et toute la tradition de la pensée philosophique, depuis Augustin et Pascal, sans oublier Jean-Luc Marion le dit, l'important, c'est la personne humaine avec son caractère unique, irréductible. Irréductible, ça veut dire qu'il ne peut pas se réduire à des éléments particuliers, mais qui dépasse tous ces éléments particuliers. Or, la nouveauté chrétienne, c'est toi, chaque être humain, avec son prix unique devant Dieu et pour les autres. Il y a là une révolution chrétienne. Le christianisme des origines n'a pas organisé une révolution pour abolir l'esclavage, mais il a réuni des maîtres et des esclaves dans la même communauté, et notamment pour le partage de la même Eucharistie. Et quand des maîtres et des esclaves se retrouvaient pour la célébration de la même Eucharistie, pour le partage du même corps du Christ, ils sentaient bien, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose de nouveau dans leur existence.
Ce qui veut dire que cette tradition chrétienne est au fond au cœur de la modernité.
La modernité l'a oubliée. Mais un ami écrivain et journaliste que vous connaissez, Jean-Claude Guibaud, a écrit un livre admirable, « Pourquoi je suis redevenu chrétien ?» Et il est redevenu chrétien notamment parce qu'il a compris en découvrant l'église ordinaire en Charente, puisqu'il habite dans le diocèse de Charente, dont je suis l'évêque, en découvrant, et d'autres diocèses ou d'autres régions de France, il a découvert que la situation de l'église actuelle, effectivement, est une situation marquée par la pauvreté, par l'affaiblissement institutionnel. Mais à l'intérieur de cet affaiblissement institutionnel, il y a des phénomènes nouveaux de recomposition du tissu de la foi et de l'Église. Et je dois ajouter non seulement de la foi, mais de la charité chrétienne. Ce qui veut dire à la fois la fraternité vécue dans des communautés ordinaires, anciennes ou nouvelles, la fraternité vécue et puis la fraternité en même temps inscrite à l'intérieur de notre société, notamment par rapport à des gens qui viennent d'ailleurs. Que d'étrangers trouvent dans les paroisses et les communautés chrétiennes, en région parisienne, mais aussi dans bien d'autres régions de France, des étrangers trouvent parmi nous comme une famille, un milieu vital fraternel. Les catéchumènes, j'ai appelé l'autre jour ces hommes et ces femmes à aller vers le baptême pour la veillée pascale. Eh bien, ces hommes et ces femmes qui répondent à un appel de Dieu qui vient toujours de loin comprennent spontanément l'Église, non pas comme une organisation compliquée ou affaiblie, mais comme une famille, un milieu vital où ils sont acceptés, reconnus et appelés précisément à pratiquer cette fraternité dont la société civile est quelquefois si pauvre.
Quatrième question récurrente de notre série, l'essentiel. Pour vous, mon père, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Hypocrisie est un mot lourd. Il se trouve dans l'Évangile. Jésus le dit aux pharisiens, vous dites et vous ne faites pas. La plus grande hypocrisie, c'est, me semble-t-il, où il y en a beaucoup, mais de prétendre avoir des réponses à tout. Et en particulier, lorsqu'il y a tel ou tel problème particulier qui se pose dans la société, je parle de la France et pas seulement notre temps, de faire des lois. L'hypocrisie, elle est dans cette espèce de, comment dire, de refus de reconnaître les personnes avec ce qu'elles ont d'unique. Ou bien de fonctionner selon la problématique du progrès qui a dominé nos idéologies, aussi bien du côté du marxisme que du côté du libéralisme, et de ne pas suffisamment remettre en question les fondements de notre société. Crise économique, crise financière, tellement de dérapages. Et on nous a dit il y a 2 ans, vous allez voir, ça va changer. Nous attendons toujours. Je ne suis pas sûr que nous ayons pris la mesure de la gravité des questions humaines impliquées par les dérèglements de la finance et de l'économie.
Autrement dit, c'est toute la rationalité économique qu'il faudrait revoir ?
Je ne dirais pas de manière simpliste non à la rationalité, et notamment non à la rationalité économique. Mais je crois qu'à l'intérieur des rationalités techniques, économiques, financières, nous sommes appelés à inscrire d'autres, je ne dirais pas rationalité, d'autres logiques raisonnables. Oui, j'ai parlé de cela à des entrepreneurs à Bordeaux, il y a quelques semaines, une université du MEDEF qui était organisée à Bordeaux, où j'ai effectivement parlé de ces logiques raisonnables que nous avons à inscrire. Oh, j'insiste sur 2. La logique du respect, qui vaut à l'intérieur d'une entreprise, du respect des personnes, précisément, et qui demande un travail, pas seulement de décision impérative, mais de dialogue avec les personnes. Et puis, la logique de la solidarité. Et de la solidarité qui ne se déclenche pas seulement lorsque on est devant des situations dramatiques, mais qui se pratique de manière habituelle. Et puis, j'ai ajouté, je crois aussi, enfin j'y tiens, la logique du développement enraciné. J'aime cette parabole de l'Évangile. Jésus dit « Le royaume de Dieu est comparable à une graine toute petite, une graine de moutarde, un grain de sénevé planté en terre. On ne le voit pas, il disparaît. Mais il va germer et il va devenir un grand arbre. » Nous fonctionnons avec des mesures grandes. Nous avons besoin de la macroéconomie. Nous avons besoin de tout, sans rien nier de cette macroéconomie, nous avons besoin de fonctionner également au niveau du micro, c'est-à-dire, je veux dire, au niveau de ce qui est petit,
humain,
de ce qui a la mesure de la limite humaine, de la finitude humaine.
Vous employez le mot finitude et en même temps, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'une chose essentielle pour nous aujourd'hui, c'est de redécouvrir la dimension du temps. À la fois à travers le passé et dans l'avenir, c'est-à-dire remettre les choses en perspective et ne pas être toujours sur le moment, sur le...
Oui,
et c'est vrai sur le plan de la foi, c'est vrai sur la gestion de la société.
Je réagis comme historien, et comme historien formé par un maître, Henri-René Maroux, qui était lui-même un disciple d'Augustin, et qui insiste sur la théologie de l'histoire. Il me semble que nous avons besoin, par rapport à ceux qui prennent des engagements dans la société, des engagements politiques, sociaux, humanitaires, associatifs, pas seulement, comment dire, de justifier leur engagement, mais de leur donner des raisons spirituelles de vivre leur engagement. Et la raison spirituelle de vivre l'engagement, c'est précisément ce que j'évoquais tout à l'heure, participer dans des circonstances, dans des conditions difficiles, à l'engendrement d'une humanité qui n'en finit pas de naître, à elle-même et de naître à partir de l'amour de Dieu qui se livre.
Et ça sur le terrain. Vous vous dites par exemple, il y a un civisme chrétien, retroussons les manches et faisons le vivre.
Le civisme chrétien est une évidence. La fraternité chrétienne est une évidence. Ce que je souhaite, c'est que nous ne nous lancions pas à la figure des catégories préfabriquées, notamment entre, comme s'il y avait d'un côté la tradition dite laïque et de l'autre côté la tradition dite chrétienne. Après toutes les ruptures qui sont intervenues, nous sommes plus libres aujourd'hui pour comprendre ce qui nous est commun.
L'humanisme, non ?
Oh, c'est un terme que je n'emploierai pas trop facilement.
Pourquoi ?
Je veux dire, parce qu'il peut faire bon marché des réalités. Il peut faire comme si les terrains étaient la compréhension de l'être humain était immédiate et facile. Or, comprendre ce qu'est l'identité d'un être humain, à commencer par les plus blessés ou les plus humiliés, ce n'est pas si simple. Comment justifier la dignité d'un être humain ? Mais que nous cessions le grand jeu des petites guerres, de la guérilla entre des traditions opposées. Du côté laïque, du côté catholique, j'aime Pagnol, j'aime Camus et bien d'autres. Et on voit bien, et je le vois souvent avec des membres de l'Académie française, la mémoire chrétienne est profondément enracinée en nous. Mais dans cette mémoire, je souhaiterais que apparaisse davantage le principe de fraternité, qui vient du fait que nous appelons Dieu notre Père.
Donc laïque et chrétien, même combat de ce point de vue.
Je n'emploierai pas des formules trop faciles, mais certainement comprendre plus radicalement ce qui nous est commun.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, mon père, le plus d'espoir ?
C'est déjà ancien. Je pense au Moyen-Orient. La visite du président Sadat à Jérusalem, la Knesset, c'est déjà ancien, trentaine d'années au moins, plus peut-être. Et le dialogue avec le Premier ministre d'Israël, Menahem Begin, je pense au Moyen-Orient. Et tout le travail qui peut se faire pour que Jérusalem puisse apparaître comme la capitale de la paix, tout ce travail me semble extraordinairement important. Et puis, apprendre dans nos sociétés fragmentées à tendre la main et à faire en sorte précisément que l'Église soit ce lieu où des hommes et des femmes différents de toute génération apprennent à se tendre la main. Et puis aussi être heureux de pouvoir dans nos communautés ordinaires accueillir des gens qui viennent d'ailleurs et qui vont trouver parmi nous des raisons de vivre et d'espérer.
Par rapport à Jérusalem, la visite l'année dernière de Benoît XVI à Jérusalem vous apparaît procéder de ce type de démarche ?
Tout à fait, j'aurais pu y penser immédiatement, mais ce voyage qui avait été finement et longuement préparé est apparu certainement comme un chemin de réconciliation. Jérusalem, la Jordanie, les territoires palestiniens, et puis l'État d'Israël. Oui, que cet homme, successeur de l'apôtre Pierre, qui s'appelle aujourd'hui Benoît XVI, puisse manifester ce qui précisément se réalise aux origines chrétiennes. Les communautés chrétiennes sont constituées de gens de provenance diverses, et du point de vue social, et du point de vue géographique. Les uns viennent du judaïsme, les autres viennent du paganisme. Oui, ce voyage de Benoît XVI a été certainement un jalon important pour que soient reconnues les chances radicales de paix qui sont à l'œuvre au Moyen-Orient.
Tous ceux qui suivent ces questions-là de près savent que Benoît XVI veut la réconciliation entre les juifs et les catholiques. Mais vous, est-ce que vous acceptez que des non-catholiques et que des catholiques puissent être quand même interrogés par des initiatives de Benoît XVI, justement, celles en particulier concernant donc, la levée d'excommunication du Mgr Williamson et celles concernant la procédure de béatification de Pie XII. Comment concilier les deux ? C'est-à-dire d'un côté ce pape qui veut la réconciliation avec des juifs et qui fait des gestes très forts pour l'obtenir et qui en même temps génère deux initiatives comme celle-là qui interloquent pas mal de gens quand même.
Deux remarques. Première remarque, il y a eu par rapport à ces événements, notamment la levée des excommunications, on ne peut pas mettre pas tout sur le même plan. Et concernant la levée des excommunications, les interventions de Mgr Williamson, Il y a eu certainement un défaut d'information, d'explication. Et le pape lui-même, au mois de mars, a adressé une lettre aux évêques pour reconnaître ce défaut d'information et de communication. Benoît XVI, je l'ai connu jadis à cause de la revue Communio, est toujours Joseph Ratzinger. Or, Joseph Ratzinger connaît très bien Saint-Augustin, que j'évoquais tout à l'heure.
La conception dramatique de l'histoire ?
À la fois la conception dramatique de l'histoire, mais le fait que la mesure de Dieu, Dieu mesure notre temps humain, n'est pas notre manière de mesurer nous-mêmes ce temps humain. Et puis, une volonté de pratiquer, comme il le dit lui-même, par rapport à l'interprétation du Concile Vatican II. Non pas, il dit un gros mot, l'herméneutique, l'interprétation. Non pas selon la rupture, mais selon la continuité. Or, il me semble que, par rapport à la décision concernant Pie XII, on l'a trop peu dit. Mais Joseph Ratzinger, Benoît XVI, veut certainement montrer que, entre Pie XII, le pape d'avant le Concile, et Jean XXIII, et Paul VI, et Jean-Paul II, et sans oublier Jean-Paul Ier, et lui-même, il y a une profonde continuité. Autrement dit, ne jouons pas au jeu des oppositions et des dualismes sommaires, mais comprenons l'histoire de l'Église de l'intérieur d'un mouvement d'ensemble dans lequel Dieu travaille. Et donc, qu'on puisse reconnaître que entre Pie XII et Jean XXIII, il n'y a pas les différences considérables que certains ont pu imaginer. Je pense à René Raymond, qui a toujours exercé son discernement d'historien au sujet de ces papes du XXe siècle. Et par rapport à Pie XII, il ne retenait pas seulement les mesures réelles et sévères prises contre des théologiens français, notamment dans les années 50, mais le pape qui ouvre l'Europe à la démocratie. Et de la même manière, le même René Raymond disait au sujet de Jean XXIII, « Je n'avais vu que son caractère débonnaire, mais en même temps, il y avait en lui une profondeur, une audace prophétique. » Donc, lire l'histoire de l'Église sous le signe d'une continuité en profondeur. Et c'est ce que le père de Lubac disait également à sa manière. Je vois alors l'entretien autour de Vatican II, qu'il publie dans les années 75, je crois. Le travail du Concile, nous ne savons pas assez, qu'il n'a pas été un travail, pas seulement de « allons tout rénover », allons tout ressourcer. Et donc, la référence aux origines chrétiennes est fondamentale dans ce travail.
Sixième question de notre série, l'essentiel, elle est très très personnelle, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Mon père, quel a été le plus grand échec de votre vie ?
On peut mal juger de soi-même. Dieu seul peut juger. Je souffre, mais ce n'est pas un échec, c'est une souffrance. Mais ça peut être aussi partiellement un échec où j'ai ma part de responsabilité. Je souffre lorsque on ne perçoit pas, à l'intérieur même de l'Église catholique, que dans l'état actuel de pauvreté et d'affaiblissement incontestable, il y a aussi des signes de renouveau, la recomposition du tissu de la foi et de l'Église. Je souffre. Et je dirais, c'est ma part d'échec. Il y a des personnes qui ne peuvent pas voir cela, qui ne voient que les images extérieures, véhiculées et accentuées par les médias, les images précisément, qui ne voient que l'affaiblissement. Je souffre et peut-être que je ne sais pas moi-même le faire valoir davantage lorsque on ne perçoit pas, au-delà des apparences, par un travail de discernement, que l'Esprit de Dieu continue à travailler et à faire naître au milieu de nous des réalités nouvelles. C'est-à-dire des éveils au mystère de Dieu dans des conditions nouvelles.
Autrement dit, vous êtes fidèle à votre maître Grégoire le Grand. Vous voulez avant tout être un veilleur de Dieu.
J'ai appris ceci.
Un sourcier d'évangile.
J'ai appris ceci de Grégoire le Grand, auquel j'ai consacré ma thèse, sur le thème culture et expérience chrétienne. Grégoire le Grand, culture et expérience chrétienne. Et quand l'un des membres du jury, spécialiste lui-même de Saint-Augustin d'ailleurs, m'a demandé « qu'avez-vous appris à travers Grégoire le Grand ?» Et j'ai répondu sans hésiter « l'espérance en des temps d'épreuve ». Et un prêtre ami, il y a un certain nombre d'années, m'a dit « mais la lettre aux catholiques de France, c'est cela. Et le rapport actuel entre épreuve et renouveau, la passion de l'Évangile, oui, au milieu des épreuves qui sont réelles et qui nous affaiblissent et qui nous blessent et qui nous marquent, au milieu des épreuves, Dieu passe, Dieu se donne. L'espérance est possible. Et nous avons à apprendre cette espérance plus forte que nos propres blessures.
Septième et dernière question récurrente de notre série « L'essentiel ». Quelle est votre motivation essentielle dans la vie ? Depuis le début de cette émission, vous ne cessez, mon père, d'y répondre. On l'aura compris, c'est donc de donner aux autres le goût de Dieu, d'une certaine façon. Alors, si vous le permettez, je vais plutôt vous poser deux autres questions à propos de Pâques tout proche. La première, quelle est à vos yeux la signification essentielle de Pâques pour les chrétiens ? Vous l'avez un petit peu évoqué au début de l'émission, la croix. Mais au-delà.
Je n'en finis pas moi-même de découvrir cela. Je le disais encore avant-hier soir, dans une paroisse toute proche d'Angoulême. Je l'ai dit l'autre jour, en remettant le prix catholique de la bande dessinée, au festival de la bande dessinée d'Angoulême. C'était un album fait de manga, La vie de Jésus. La vie de Jésus, et puis la dernière image, c'était la colline du Golgotha, sur un fond de ciel très sombre, avec les trois croix dressées. Et j'ai dit, j'aime cet album, j'ai découvert les mangas dans cet album, fait par une japonaise qui s'est convertie d'ailleurs aux États-Unis, mais le début du christianisme, l'essentiel, le cœur du christianisme, ce n'est pas la colline du Golgotha, c'est un tombeau vide. Et j'aime cette expression qu'emploie un de mes confrères de l'Académie française, Michel Serres. Les religions païennes sont fascinées par les cadavres. Le christianisme commence par un tombeau vide. Et de ce tombeau vide, je pense à Jean chapitre 20, une femme qui a connu Jésus, qui a de l'admiration pour lui. Il l'a sauvé, Marie-Madeleine. Elle vient au tombeau. Quelqu'un est là, elle ne le reconnaît pas. Elle le prend pour le jardinier. « Dis-moi, où on a mis le corps ?» Il l'appelle par son nom. Marie. Et elle répond « Rabouni ». Et puis il ajoute aussitôt d'ailleurs « Ne me retiens pas, mais va plutôt dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Et Grégoire le Grand dit que cette femme, Marie-Madeleine, devient alors « apostola apostolorum », c'est-à-dire une femme qui devient apôtre des apôtres, porteuse de la résurrection et de la résurrection comme un signe de renaissance inépuisable.
Oui, mon père, la résurrection, c'est le dimanche. Est-ce que la plupart d'entre nous, dans nos vies, nous ne sommes pas le samedi, comme les premiers chrétiens, dans l'état d'esprit des premiers chrétiens, le samedi, pas le vendredi de la croix, pas le dimanche de la résurrection, le samedi de l'incertitude terrible.
Nous sommes toujours en état d'attente. Et je reprends la parole de Paul. Espérer, c'est attendre ce que l'on ne voit pas. Mais chacun de nous le comprend plus tard, à des heures de désespoir, de délaissement, où nous sommes du côté de la croix, totalement. Et puis, il y a des heures de découverte, où nous sommes dans la jubilation, parce qu'il est là, et il nous saisit. Et puis, il y a effectivement, Orson Balthazar, le grand théologien, fondateur de la revue Communio, y insistait, le samedi saint. Samedi Saint, c'est le moment de l'attente et en même temps, c'est le moment, selon la tradition, où le Christ descend aux enfers et va saisir ce monde condamné à la mort pour l'entraîner avec lui vers le Père. Nous n'en finissons pas de devenir chrétiens en apprenant nous-mêmes à passer de ce monde au Père avec Jésus le Christ. Et si j'ai une passion dans ma vie, c'est de conduire à lui et de reconnaître qu'il y a des événements et des personnes qui nous sont donnés pour reconnaître cette source.
Que quelqu'un appelle la mémoire de Dieu, enfin quelque part.
Quoi, la source.
Qui... La source.
La source. La source est là, elle est cachée. Et être chrétien, c'est aussi déblayer les chemins qui permettent d'accéder à la source ou de dégager en nous-mêmes tout ce qui obstrue le jaillissement de cette source.
Alors justement, deuxième question à propos de Pâques, que dire en tant que chrétien, vous, mon père, à des non-chrétiens à cette occasion ?
Ou à certains moments, il faut se taire. Non-chrétiens, ou aussi des personnes qui souffrent radicalement d'absence, de solitude, de pauvreté muette, se taire et être là. et que l'Église tout entière apprenne Dieu, apprenne le mystère de Dieu avec ceux et celles qui ne perçoivent rien du mystère de Dieu. Je n'ai rien à dire sinon à encourager à ce travail d'inscription à l'intérieur de notre humanité à cause de celui qui est venu tout prendre de cette humanité. Il est le chemin.
Est-ce que vous pourriez reprendre dans votre propre démarche le mot de Gandhi, assez extraordinaire ? Dans toutes les religions du monde, c'est l'homme qui est à la recherche de Dieu. Dans la religion chrétienne, c'est Dieu qui est à la recherche de l'homme.
Sans aucun doute. Et j'ai lu cela jadis dans un livre d'un juif, professeur à New York, Abraham Heschel, Dieu en quête de l'homme. D'Abraham à aujourd'hui, nous sommes les témoins de ce travail inlassable par lequel Dieu sort de lui-même et nous tend la main. Et effectivement, il y a le mouvement de « oui, mais » en ajoutant ceci, que nous ne fassions pas, comment dire, Dieu en quête de l'homme comme si c'était seulement un mouvement de descente de haut en bas. Le mouvement qui va de bas en haut est également possible parce que le germe de la vie nouvelle a été inscrit en nous. Et donc, en même temps que nous accueillons celui qui vient d'en haut, nous apprenons nous-mêmes à aller vers le Père.
Qui veut dire aussi que nous le portons en nous ? Vous êtes convaincu que nous portons Dieu en nous ?
Oh, je n'oserais pas le dire si facilement. Je suis sûr, en tout cas, que Dieu s'est engagé au point, comme le dit l'Évangile, comme le dit Paul également, de choisir aussi ceux et celles qui n'ont aucune apparence selon le monde pour se manifester à nous. Il y a plusieurs foyers de l'Arche dans mon diocèse d'Angoulême, des personnes handicapées. Alors, ces personnes handicapées, on ne se penche pas sur elles. Ces handicapés nous apprennent notre part de fragilité, la grande intuition de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, et la grande intuition de l'Évangile. Les fragilités des autres nous rappellent que nous aussi, nous sommes fragiles, mais que, à l'intérieur de cette fragilité humaine, la force de l'Esprit-Saint passe et se donne.
Mon Père, merci. Je rappelle, et ceci pour des non-chrétiens comme pour les chrétiens, parce que c'est vraiment en même temps un texte de grande réflexion sur notre époque. Le titre donc de cet ouvrage, ce rapport publié par Bayard, Cerf, Leruss et Mam, « Entre épreuves et renouveau, la passion de l'Évangile », sous-titre « Indifférence religieuse, visibilité de l'Église et évangélisation ». Et donc le rapport présenté à l'Assemblée des évêques par Mgr d'Agens en novembre dernier.
Le terme important, c'est « passion de l'Évangile » et « évangélisation ». Les autres termes sont seconds.
On a bien compris que c'était votre démarche et votre motivation essentielle dans la vie. Merci mon Père et merci à tous et à toutes d'être avec nous.